Voilà, je voulais présenter une communication intitulée L'histoire des TA à travers ces silences. Donc, je me suis proposé d'analyser la manière dont le silence s'impose en tant que complice nécessaire ou dommage collatéral inévitable dans ce genre de contexte de violence politique. Et pour cela, je vais me concentrer sur l'histoire de l'organisation terroriste sur laquelle j'ai travaillé, donc les TA. Ben, je souhaiterais parler de ces lourds silences tout au long de son histoire. Mais aussi ce que j'ai dénommé des cris assourdissants, parfois des moments clés de leur histoire où ils ont commis des attentats qui ont vraiment eu un impact médiatique important. Et aussi, je vais me centrer sur la médiatisation de cette organisation terroriste ou les silences qui ont pu tourner autour de leur actes terroristes, notamment pendant la transition à la démocratie espagnole. Donc d'abord, je vais aborder brièvement les origines de cette organisation terroriste et aussi je vais aborder ce que je considère comme des trois points clés de son histoire. Donc je veux parler du bruit médiatique qui a entouré le procès de Burgos en 1970. Je vais aborder plus tard ce que c'est. Et l'assassinat du président du gouvernement espagnol, Luis Carrero Blanco, en décembre 1973. Et aussi, comme je disais, la mise sous silence médiatique de l'ETA pendant la transition vers la démocratie, qu'on peut cerner entre 1975, la mort de Franco, jusqu'à 1978, donc la promulgation de la Constitution espagnole. Bon, d'abord, je tiens à m'excuser préalablement si jamais vous constatez d'erreurs de français pendant mon intervention. Ça fait 10 ans que je suis en France, mais d'accord, déjà, c'est des petits problèmes qui traînent, mais j'ai voulu quand même intervenir en espagnol, en français, pardon. Comme je disais, je vais aborder un peu l'histoire, les origines de cette organisation. Donc, l'ETA est née précisément du silence auquel le franquisme condamnait la jeunesse espagnole. Donc, un petit groupe de jeunes basques a décidé de rompre ce silence en créant un collectif qui s'appelle Ekin, donc faire en basque. Ce collectif, composé principalement d'étudiants de droit de l'université de Deusto, une université privée des jésuites au Pays Basque, très réputée, a cherché à briser l'isolement des murs de la faculté et après est devenue l'organisation Euskadita Askatasuna, qui veut dire Pays Basque et Liberté. Donc, si les premières actions de cette organisation qu'on connaît aujourd'hui par son passé très sanglant, leur première action consistait en la brûlure de drapeaux espagnols. Oui, basiquement, et la pose des Curriñas, donc le drapeau basque, est dans des lieux visibles de certaines localités du Pays basque. Dans les années 60, ils sont fondés en 1959, donc pendant leurs premières années, en gros, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, par la suite, ils ont souhaité s'ouvrir à l'opinion publique et aborder. Élargir un peu leur marge d'action. Donc, ils ont intervenu en politique à l'occasion des mobilisations ouvrières en 1962, qui a eu lieu notamment aux Asturies et au Pays Basque. Donc, avec ce geste d'entrer davantage dans la cause ouvrière, et l'ETA avait l'intention de se faire connaître, de trouver un terrain fertile pour notamment faire ressonner son discours, qui à l'époque avait encore un caractère hybride, mêlant le libéralisme européen et les luttes en faveur de l'émancipation de la classe ouvrière. Donc, dans ses débuts, l'ETA n'était pas du tout le groupe qu'on connaît aujourd'hui, une marxiste-léniniste, une branche marxiste-léniniste, une branche internationaliste ou violente, quoi que ce soit. Leurs textes au début sont plus tentés de l'idée de l'européisme et du libéralisme européen. C'était pas plus que ça. Donc, lorsque les militants d'ETA ont essayé d'utiliser les grèves ouvrières pour se faire de la propagande, le PC, le Parti communiste espagnol, a bien sûr réagi tout de suite parce qu'un parti politique comme le Parti communiste, qui se percevait comme le seul à avoir lutté contre la droite réactionnaire avant la guerre civile, pendant et surtout après, donc on n'allait pas permettre que quelques jeunes, on les appelle dans les archives du Parti communiste, on appelle les militants d'ETA et niñatos, donc des petits gosses, des petits gamins, et de s'approprier de leur part de pouvoir dans les luttes ouvrières. Donc cette émergence de l'ETA sur les devants de la scène politique a été immédiatement étouffée par les partis politiques qui prétendaient canaliser les luttes ouvrières de l'Espagne antifranquiste. Donc, la première action d'ETA préméditée, leur premier assassinat prémédité qui a permis l'organisation de sortir de leur bunker de silence et de se faire connaître, a été l'assassinat en 1968 du policier Melitón Manzanas lors de l'opération connue sous le nom de Sagarra, opération Sagarra qui veut dire pomme en basque, donc comme Manzana, le nom de famille de ces policiers réputés tortionnaires. Donc, aussi quelques jours auparavant, cet assassinat prémédité, comme je disais, l'ETA avait déjà tué de manière non préméditée un garde civil lors d'un contrôle routier dans lequel ont été pris au dépourvu, fini par tuer un garde civil, et puis la garde civile, à leur tour, a tué un militant d'ETA. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître un peu plus par le grand public, on va dire, ils sont un peu sortis de leur silence. Donc, et après ce petit bref résumé de leurs premières actions violentes, je souhaiterais aborder les trois points autour desquels je voulais centrer mon exposé. Donc, tout d'abord, je veux parler de la médiatisation très complexe du procès de Burgos, qui a été en partie coordonnée par l'avocate tunisienne et très connue en France, Gisèle Halimi. Donc, le procès de Burgos, qui s'est terminé par la condamnation à mort de plusieurs militants d'ETA, suivi de la commutation de leur peine, a bouleversé l'opinion publique nationale et internationale et a valu à l'ETA une popularité de laquelle il était jusqu'alors dépourvu. Donc, par la suite, une fois que j'aurai parlé du procès de Burgos, je voulais aborder la mort du président du gouvernement espagnol Luis Carrero Blanco en 1973 lors de l'opération Ogro. Donc, le traitement médiatique de cet attentat et surtout le traitement gouvernemental et administratif par l'Espagne et par la France a été teinté d'étranges silences que je veux aborder lors de mon intervention. Donc, ces deux premières parties proviennent pour la plupart de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2019 à l'Université de Nantes. Et pour terminer, je vais aborder le grand silence médiatique à propos de l'ETA et qui parle par la seule télévision existante pendant la transition, qui était Télévision Espagnola. Et donc, ce silence médiatique visait à consolider le récit autour d'une idée de transition exemplaire que l'État cherchait et avait bien sûr besoin de transmettre. Donc, et pour aborder ce dernier point, je sors un peu de ma thèse, du cadre chronologique de ma thèse, et j'ai repris des éléments de la théorie de la sociologue allemande Elisabeth Noël-Neumann, dénommée La spirale du silence. Et je me suis aussi centrée sur l'article de Virginia Martín Jiménez de l'Université de Valladolid qui porte justement sur comment la télévision espagnole a mis sous silence les très graves attentats qu'il y a eu pendant la transition, très graves et très nombreux. Donc, je suis contente tout à fait que ces trois points ne recouvrent pas du tout l'histoire complexe de l'ETA, ponctuée des fluctuations, des divisions internes, d'une fin qui, heureusement, est déjà derrière nous. Et mon objectif est bien sûr plus modeste. Je voulais éclairer les traitements communicatifs, médiatiques et gouvernementaux de ces trois moments clés de l'histoire de cette organisation. Donc, je vais parler un peu plus du procès de Burgos. Donc, pour comprendre la grande popularité qui profitait les militants d'ETA avant le procès de Burgos, et j'ai tenu à retenir une citation extraite du prologue du premier volume des œuvres complètes de l'ETA intitulé Document Y, que je vous conseille, c'est 18 volumes. Donc, ce n'est pas une lecture légère, mais voilà, il y a presque tous les textes, et même un pamphlet, ou voilà, petit volet que l'organisation a créé. Donc, cette citation dit, il y a quelques années, un journaliste catalan s'étonnait, lors d'une visite au Pays Basque, de constater que des enfants âgés de 10 ans au moins récitaient les noms des condamnés du procès de Burgos aussi facilement qu'il y a 20 ans, nous récitions par cœur les noms des joueurs de l'attaque de l'Athletic de Bilbao ou del Barça. Donc, pour les enfants, c'était comme des joueurs, comme leur idole. Et il faut retenir que ce n'était pas le tortionnaire meurtrier qu'on connaît maintenant, c'était des gens, des lutteurs en faveur de la liberté. Donc, ces 16 membres des ETA, dont les noms étaient connus par cœur par la grande majorité des enfants basques, étaient accusés de rébellion générale continue et plus précisément, il était accusé de l'assassinat du garde civil José Pardines, que j'ai déjà mentionné auparavant, lors d'un contrôle routier, de l'attentat perpétré contre le chef de la brigade politico-sociale Melitón Manzanas au cours de l'opération Sagarra, et de la mort du chauffeur de taxi Fermín Monasterio, qui avait été tué pour avoir refusé de transporter un militant d'ETA blessé pendant une opération de police. L'accusation insista également sur le vol présumé des 3 millions de pesetas lors de plusieurs braquages. Donc, le procès de Burgos eut une énorme répercussion sociale et médiatique, tant en Espagne qu'au niveau international. La salle de justice de la région militaire de Burgos recevant de nombreux journalistes internationaux au moment de la déclaration des inculpés. Et ce fut précisément l'avocate Gisèle Halimi, l'une des personnes qui imagina l'impact médiatique de ce procès. Et peut-être que cette expérience positive pendant le procès de Burgos a pu motiver cette avocate à répéter l'expérience lorsqu'en 1972, elle plaida en faveur de Jamila Boupacha, une femme inculpée d'avoir fait avorter sa fille qui était tombée enceinte suite à un viol. Et cette affaire, qui est connue, vous le connaissez peut-être, le procès de Bobigny, réussit à mobiliser l'opinion publique en France afin d'obtenir l'agrément du public en faveur de cette femme et de sa mère, qui avait aidé à avorter, et qui a eu un impact majeur, ce procès, lors de l'adoption de la loi Veil, la loi de l'avortement en France en 1975. Donc, je reviens au procès de Burgos. Et contrairement à la stratégie des inculpés, et qui avait souhaité la présence de journalistes internationaux, les autorités espagnoles réclamèrent la tenue d'un procès à huis clos, alléguant que le Concordat espagnol, signé en 1953 entre les Saint-Sièges et l'État espagnol, déterminait que le procès contre les membres de l'Église catholique ne pouvait pas se réaliser en présence du public. Et deux des inculpés étant des prêtres, donc l'État franquiste considéra que la célébration d'un procès à huis clos était plus convenable, mais les prêtres inculpés ont menacé de demander leur sécularisation si le gouvernement espagnol ne respectait pas leur demande. Donc finalement, le franquisme n'a pas réussi à éviter l'affluence de nombreux journalistes internationaux pendant ce procès. Et donc le gouvernement de Franco a essayé de tourner la situation et de donner un caractère exemplaire au procès des Burgos qui pourrait potentiellement être suivi par beaucoup de personnes dans les différents pays. Donc, cette stratégie joue en défaveur du franquisme, du gouvernement franquiste, parce que les inculpés et leurs avocats ont profité de l'attention populaire pour dénoncer publiquement les tortures qu'ils avaient subies et le manque de liberté qui laissait leur pays, l'Espagne. Hein. Notamment, ils n'ont pas parlé que du Pays Basque, ils ont parlé notamment de l'Espagne et ils ont fait un plaidoirie en faveur des travailleurs espagnols. Finalement, avant la lecture du verdict qui allait leur condamner à mort, et ils le savaient, ils ont pensé qu'ils n'avaient rien à perdre. Donc, ils ont décidé de chanter le point levé, l'Euskaldunak, l'hymne des combattants basques. Ils ont marqué l'un des moments les plus tendus de ce procès. Et ce moment a été enregistré de manière clandestine par l'un des journalistes qui était présent dans la salle. Ce moment a été repris dans de nombreux documentaires que vous pourrez visualiser sur le procès de Burgos. Et après ces chants, la réaction des militaires a été justement de sortir leurs sabres. Et le procès a dû être interrompu au milieu d'un vacarme en supersol. Donc, malgré les tensions qui ont marqué ce procès, 9 des inculpés furent condamnés à mort, mais l'énorme pression internationale motiva la commutation de leur peine en prison à perpétuité. Donc, la sentence fut prononcée fin décembre 1970, et le 30 décembre 1970, lors de son message de fin d'année, Franco a déclaré la commutation de leur peine sous prétexte des manifestations d'adhésion massive en l'honneur du caudillo, ce qu'on ne comprend pas parce que les manifestations étaient internationales, pas en Espagne, pas en tant que ça, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire. Mais les manifestations étaient en faveur des inculpés, pas du franquisme. Et donc, cette stratégie de détournement, bien sûr, n'a pas réussi à cacher la victoire des inculpés. Donc, l'échec de la stratégie de communication menée par le franquisme, basée sur la présence massive des médias internationaux lors du procès, dans le but de montrer la proportionnalité des accusations du tribunal militaire, a constitué un point d'orgue dans le processus de médiatisation internationale de la lutte ETARA. Et cet échec du franquisme provoqua un changement de la stratégie du gouvernement espagnol dans des procès similaires célébrés postérieurement. De son côté, les mobilisations nées en France en faveur de l'acquittement des inculpés de Burgos et mirent en garde les autorités françaises qui craignait la création de réseaux de solidarité entre les sympathisants des TA et les mouvements autonomistes existants en France, notamment les Corses et les Bretons. Et la France finit par prononcer l'interdiction de l'organisation ETA en France, dans le territoire national, en octobre 1972, quoique l'organisation a continué à agir en territoire français. Donc, la mise en scène des interventions des inculpés, diffusées par la presse internationale, et les protestations suscitées par la condamnation à mort endommagèrent les relations binationales entre l'Espagne et la France, à tel point que le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Robert Schuman, a été obligé de reporter un voyage en Espagne par peur des protestations. Donc avant la visite en Espagne, le ministère de l'Intérieur français avait décidé d'assigner à résidence, une stratégie assez fréquente qu'on en verra plus tout à l'heure, et a décidé d'assigner à résidence plusieurs militants basques réfugiés politiques en France, ce qui a été perçu comme un geste favorable au régime franquiste par l'opinion publique française. Donc en conclusion, les événements qui maillèrent la célébration du procès de Burgos et les protestations organisées en France en faveur des inculpés ont motivé une intensification de l'action policière et dans la répression du terrorisme etarra en France et a motivé l'interdiction de l'organisation en 1972. En outre, le coup subi par l'État franquiste à l'occasion de ce procès fut significatif et motivant un changement dans les stratégies communicatives du gouvernement, les régimes franquistes optant pour la célébration des procès discrets et pour l'exécution rapide des peines. Par exemple, le procès contre Puig Antich et la dernière personne qui a été tuée par Garroteville, je ne sais pas comment on dit ça en français, et Judge Michael Welzel, exécuté en mars 1974, et aussi contre les militants du FRAP et DTA en septembre 1975, en sont la preuve. C'est-à-dire le franquisme a décidé à s'adapter au milieu et organisé des procès plus discrets et plus rapides après la confusion créée par le procès de Burgos. Donc, je vais aborder maintenant l'autre moment fort, médiatiquement parlant, de l'histoire de l'ETA sous le franquisme, qui était bien sûr l'opération Ogro, donc l'assassinat du président du gouvernement, Luis Carrero Blanco, le 20 décembre 1973, lors d'un spectaculaire attentat consistant à placer une charge explosive très importante sous la chaussée de la rue que le président empruntait tous les jours pour se rendre à la messe. La voiture du président a été projetée à cause de l'explosion et est tombée à l'intérieur d'un couvent qui était à côté, entraînant la mort de Carrero Blanco, de son escorte, d'un policier et de son chauffeur. Donc la réaction politico-médiatique en Espagne fut virulente après cet attentat et il faut attribuer bien sûr au Parti communiste d'Espagne, notamment parce que ce jour même, le jour de l'assassinat de Luis Carrero Blanco, il allait avoir lieu le procès 1001 contre la direction du syndicat communiste Comisiones Obreras, dont les communistes ont été accusés d'avoir voulu retarder la célébration de leur procès qui a eu lieu le lendemain. Ils n'avaient rien à voir avec cet attentat, ils n'en étaient même pas au courant. Donc après l'attentat, le commando de Chiquilla, qui était le commando des terres qui a tué le président du gouvernement, a demeuré caché pendant quelques jours dans une commune de la banlieue de Madrid, avant de prendre la fuite en France, où ils ont organisé une conférence de presse clandestine près de Bordeaux pour revendiquer l'attentat. La célébration de cette conférence de presse aurait pu motiver l'expulsion du territoire de ces organisateurs, car ils étaient des réfugiés politiques et les autorités françaises en étaient au courant, comme on va voir. Et ils ont enfreint l'obligation de réserve imposée par la Convention de Genève. Ils se sont manifestés publiquement, ils ont manifesté leur avis politique de manière publique, et ce qui contrevenait à la Convention de Genève. Donc, je vais citer un extrait des archives de police que j'ai pu consulter. Non contents de se réfugier en France, qu'ils considèrent comme une terre d'asile, les militants du mouvement séparatiste basque-espagnol ont, à la fin de 1973, totalement méconnu l'obligation de réserve qui s'impose à eux après l'assassinat du chef du gouvernement espagnol. En effet, le 28 décembre 1973, sur le territoire français, quatre hommes masqués, dont deux étaient armés de pistolets mitrailleurs, ont tenu une conférence de presse clandestine pour revendiquer cette attente. Donc, ces militants étaient donc bien connus des autorités françaises. Donc, afin de calmer les protestations du gouvernement espagnol, qui a eu connaissance, bien sûr, de cette conférence de presse, et 10 jours après l'attentat, en décembre 1973, le Premier ministre a décrété des mesures d'expulsion et d'assignation à résidence, à l'encontre de 14 réfugiés basques, considérés comme responsables de la branche militaire des TA en Pyrénées-Atlantiques. Ces mesures n'ont pas été respectées par les personnes concernées et ne l'étaient pas d'ailleurs dans la plupart des cas. Et ils ont continué à résider dans les départements frontaliers de manière irrégulière, provoquant l'irritation des autorités espagnoles qui, bien sûr, en étaient au courant. L'intention du ministre de l'Intérieur français était d'éviter l'instrumentalisation des mesures administratives, c'est-à-dire était d'éviter que le militant d'ETA utilise ces mesures administratives pour se victimiser et pour protester contre la France, supposée terre d'asile. Donc, le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, a fini par abroger en août 1974 ces mesures d'expulsion et d'assignation à résidence en demandant aux intéressés d'avoir à l'avenir, je cite, « un comportement irréprochable ». Donc, il faut souligner que le besoin de discrétion exprimé par le ministère de l'Intérieur français transparaît tout au long de ces dossiers, comme le montre cette autre citation. Monsieur Poniatowski est tout à fait d'accord sur l'illogisme qu'il a laissé subsister des arrêtés d'expulsion et d'assignation à résidence qui ne sont pas exécutés. Il serait favorable, à leur abrogation, mais à condition que cela ne se sache pas. Donc, en gros, il laissait faire. Et à condition que cela ne se sache pas, surtout par le grand public, les autres mouvements séparatistes français et surtout par l'Espagne. Donc, nous avons ici un silence très parlant. Donc, ainsi, des considérations politiques devraient mener à supprimer les mesures administratives prises à l'encontre des militants d'ETA réfugiés en France, dont les présumés assassins du président du gouvernement espagnol. Et en effet, les hésitations du ministre, qui devait à la fois instituer une décision ministérielle juste proportionnelle et parallèlement s'accommoder au besoin de maintenir une bonne entente avec l'Espagne, et ont montré à quel point la discrétion était cruciale. De toute manière, les mesures répressives à l'encontre des militants d'ETA ont été ratifiées quelques semaines plus tard, donnant lieu à une inévitable campagne propagandiste de la part de l'organisation terroriste, notamment par les biais des diverses grèves de la faim qui posaient un véritable problème pour les autorités françaises. Celles-ci furent, les grèves de la faim, ont été un instrument souvent utilisé afin d'attirer l'opinion publique internationale. Donc en conclusion, l'attentat contre le chef du gouvernement Luis Carrero Blanco en décembre 1973 mit en exergue le problème qu'affrontaient les autorités françaises pour contenir les manœuvres de cette organisation sur son sol. Les mesures administratives étaient souvent enfreintes par les militants d'ETA qui profitaient de leur séjour en France pour coordonner les attaques conduites en Espagne. En outre, les protestations organisées en faveur d'ETA en France constituaient un problème majeur pour l'administration, qui souhaitait notamment conduire les affaires autonomistes avec discrétion. De son côté, Euskaditas Katasuna profitait de ces manifestations pour en tirer parti médiatique, alors que l'administration décida de prioriser, la voie pénale à la voie administrative, c'est-à-dire les mesures administratives, elles n'étaient quasiment jamais appliquées parce que ça ne servait pas à grand-chose, elles n'étaient pas respectées. Et donc l'annulation des mesures administratives prises à l'encontre des membres du commando Chiquilla, le responsable de l'attentat contre Carrero Blanco, est la preuve de la politique de discrétion menée par le gouvernement français. Donc, pour conclure mon intervention, je vais aborder les silences de la télévision espagnole concernant l'organisation terroriste ETA pendant la transition. Donc, nous allons examiner comment ce silence assourdissant a été guidé par le président du gouvernement espagnol, Adolfo Suárez, qui cherchait à transmettre à la population une idée d'ordre et de modernité dans laquelle le terrorisme basque aurait pu constituer une tâche difficile à effacer. Donc, l'organisation ETA, qui avait réussi à s'attirer la sympathie d'une partie des Espagnols, de la plupart des Espagnols antifranquistes, après le procès de Burgos et surtout après l'assassinat du bras droit de Franco, donc Carrero Blanco, décida d'intensifier son combat une fois rétablies les libertés démocratiques, considérant que ses objectifs politiques n'avaient pas été atteints. Donc, le jour de la mort de Franco, le 20 novembre 1975, les Espagnols hésitaient entre la fête et le deuil. L'incertitude à propos de l'avenir du pays était si grande que la majorité de la population s'est limitée à attendre une réaction de la part du nouveau chef de l'État, Juan Carlos de Borbón. Donc, comme on le sait tous, le pays a commencé son processus de démocratisation et ils ont promulgué une ordonnance d'amnistie en 1976, une loi d'amnistie en 1977. Et ces deux lois cherchaient à montrer que la démocratisation du pays était irréversible, malgré le climat des violences qui émaillait toute la période de la transition. Nous pouvons citer ici l'ouvrage de Sophie Babi, Le mythe de la transition pacifique, qu'on connaît tous très bien, que ces violences qui ont émaillé la transition ne sont pas, l'ETA n'est pas, est l'un des acteurs majeurs, on va dire. Donc, la célébration des élections en juin 1977 attestait la résilience des TA, une organisation qui devait s'adapter à la nouvelle situation politique et qui risquait de perdre le soutien populaire accaparé sous la dictature, parce qu'ils auraient soi-disant plus besoin d'exister. Ils n'avaient plus de raison d'être. Donc, à l'occasion de la rencontre de Chiverta, célébrée en avril et mai 1977, et la gauche abertzale, donc la gauche radicale basque, a mis en évidence ces différences. Donc, cette rencontre a été le théâtre des divergences entre les divers partis autonomistes et indépendantistes basques qui souhaitaient se présenter aux élections en juin 1977 et l'organisation ETA qui a décidé de boycotter ces élections. Donc, après cette rencontre, la rencontre de Chiverta, l'ETA a abandonné toute intention de reconduire l'organisation vers la voie démocratique. Et comme je le disais, les années les plus sanglantes d'ETA sont précisément les années de la transition où ils ont même promulgué un statut d'autonomie dans le Pays basque en octobre 1979, un statut qui s'appelle, il est dénommé le statut de Guernica, qui a inauguré un nouveau panorama politique de l'Espagne contemporaine fondé sur le modèle de l'État des autonomies. Et en effet, la normalisation progressive des institutions espagnoles, notamment la réactualisation d'une institution démocratique qui datait de la Deuxième République espagnole, connue comme l'autonomía de Euskadi, c'est la seule qu'on conserve de la Deuxième République, l'autonomie du Pays Basque, et manifestait ouvertement la volonté des changements de l'Espagne post-franquiste, un changement auquel l'ETA était un peu aveugle peut-être. Donc, l'organisation terroriste ETA, loin d'abandonner la lutte armée, a intensifié ses attentats, s'insérant dans les dénommées années de plomb et marquant un tournant de l'histoire de la violence politique en Espagne. Donc, l'emploi de l'expression années de plomb est complètement justifié en l'occurrence par le nombre des victimes causées par cette organisation entre 1978 et 1979. Donc, c'est les années de la promulgation de la Constitution et du statut d'autonomie basque. Donc, l'ETA a tué 62 personnes en 1978. Et 76 en 1979. Donc, ce sont les années les plus sanglantes de leur histoire. Le rôle de télévision espagnole a été crucial pour présenter une image pacifique de la transition qui a consisté à minimiser la couverture du terrorisme et qui a mis en avant les aspects positifs du processus politique. Donc, télévision espagnole, TV, a adopté une approche éditoriale qui a visé à rassurer le public et à promouvoir la stabilité pendant la transition. Cela impliquait une réduction de la couverture des actes de terrorisme en minimisant leur importance et en présentant l'ETA comme une organisation marginale et isolée. Le monopole médiatique de TV, de la télévision espagnole, et ses niveaux d'audience élevés, parce que c'était la seule télévision disponible, en faisait un acteur du premier ordre pour étouffer un problème d'envergure comme le terrorisme, principalement parce qu'à mesure que le processus de démocratisation avançait, l'ETA forçait la stratégie de la tension qui cherchait précisément à contrecarrer ce processus. Donc, cependant, les groupes terroristes étaient nombreux pendant la transition, l'ETA n'était pas seul. Donc, à part l'ETA, on peut citer l'extrême gauche, le Grapo et le FRAP, et d'extrême droite, la Triple Alianza et le Bataillon Basco-Espagnol, pour en citer juste les cinq les plus connus. C'était une période vraiment très, très compliquée. Donc, selon l'étude citée, et l'article dont je parlais avant de la professeure de l'Université de Valladolid, et la faible présence médiatique des actes terroristes de ces organisations a fait en sorte que l'opinion publique montre peu de préoccupation face au terrorisme par rapport au nombre des décès et d'actes violents commis au cours des premières années de la transition, entrant dans la connue comme spirale du silence. Donc, cette théorie, développée par Elisabeth Noël-Newman, est une théorie des communications qui cherche à expliquer comment les opinions dominantes dans une société sont maintenues et comment les opinions minoritaires peuvent être supprimées. Donc, selon cette théorie, les individus ont une peur innée de l'isolement social et ont une tendance à surveiller en permanence l'opinion publique afin de déterminer quelles opinions sont acceptées par la majorité des gens et quelles opinions sont rejetées. Donc, la spirale du silence se produit lorsque les individus perçoivent que leur opinion est en désaccord avec l'opinion dominante et décident donc de se taire par peur des conséquences sociales négatives. Cette autocensure, qui à mon avis peut être consciente ou inconsciente, conduit à une amplification de l'opinion majoritaire car les opinions minoritaires ne sont pas exprimées publiquement. En conséquence, l'opinion dominante devient encore plus prédominante, ce qui renforce la pression sociale pour se conformer à cette opinion. Donc, en réalité, l'objectif recherché par les autorités, par le biais de leurs bras médiatiques, dont TVE, était clair, étant donné que le rituel terroriste vise à obtenir une résonance médiatique, un silence médiatique, équivaut à contrecarrer son objectif principal. Et si l'on considère que le terrorisme peut être défini comme acte violent commis à l'encontre d'une infrastructure, une personne ou un groupe de personnes visant à intimider un collectif beaucoup plus large que celui qui a été directement visé par la violence, on peut considérer que les médias peuvent faciliter ou empêcher la réalisation de la liturgie terroriste, sans pour autant, bien sûr, faire des médias les responsables de la violence terroriste. Cependant, le blackout médiatique peut avoir l'effet inverse, donc les gens s'habituent et normalisent les épisodes violents, considérant aussi comme quelque chose de quotidien ou d'inévitable ces genres d'actes. Donc, TVE a opté pour une stratégie hybride, informée, mais sans projeter le masque d'omnipotence que recherche toute organisation terroriste. Et en gros, en cherchant à ne pas imposer la peur aux citoyens. Ces mesures visaient à rendre possible la poursuite d'un projet concret de continuité réformiste de caractère pacifique, sans que le terrorisme soit un obstacle inévitable, car on ne pouvait pas transmettre le sentiment d'un pays qui s'effondre. Après, ça, bien sûr, a fait payer parce qu'on a eu le coup d'État en 1981, où l'un des problèmes politiques majeurs auquel faisait face le gouvernement espagnol, c'était justement le terrorisme qu'il avait essayé de cacher un peu. Donc, de même, télévision espagnole était soumise à des contraintes légales et à des pressions politiques limitant sa capacité à informer pleinement sur le terrorisme. De plus, on peut soutenir qu'il avait une perception généralisée dans la société espagnole selon laquelle une couverture excessive du terrorisme pouvait engendrer la peur et avoir un impact négatif sur l'image du pays à l'étranger, alors qu'il était en pleine ouverture internationale en tant que pays dont l'économie était de plus en plus tertiaire et principalement axée sur le tourisme. Donc, nous avons vu comment TVE a joué un rôle important dans la construction d'une image pacifique de la transition espagnole en minimisant la couverture du terrorisme de l'ETA et en mettant en avant les aspects positifs du processus politique. La théorie de la spirale du silence trouve ici donc toute sa place. Cependant, on peut se demander si cette position éditoriale de TVE est éthique ou si elle constitue un exemple clair des désinformations. Donc, en conclusion, nous avons cherché à aborder le bruit et le silence autour des trois moments clés de l'histoire de l'ETA, donc le procès de Burgos, la mort de Luis Carrero Blanco et la couverture médiatique des attentats d'ETA pendant la transition. Ces moments ont été choisis pour leur pertinence particulière dans l'histoire globale de l'organisation. Et je reste à votre disposition pour répondre aux questions que mon intervention pourrait susciter. Et je vous remercie de votre attention.
Je te remercie donc à nouveau pour ta communication qui était justement bien centrée sur ce thème du silence. Donc, c'était très intéressant. Peut-être pour quelque chose de très large pour lancer la conversation, mais donc si j'ai bien compris, donc ce travail s'inscrit donc dans la continuation de ta thèse. Donc, tu as mentionné des archives que tu avais pu consulter, notamment les archives de police. Tu as éventuellement parlé de documents du Parti communiste. Donc, je voulais te demander comment tu avais travaillé méthodologiquement, à quelles sources tu avais pu avoir accès, etc.
OK. Bon, je commence par la partie la plus facile, on va dire, les archives du Parti communiste. Donc, sont situés à Madrid, à la Biblioteca Marqués de Valdecilla, et ils sont très bien gérés par l'archiviste et sont plus faciles dans le sens qu'ils sont moins dangereux, on va dire, moins sensibles. Et donc là, j'ai travaillé surtout, voilà, comme j'ai expliqué dans la thèse, j'en explique beaucoup davantage, la relation entre l'ETA et le PC qui a existé, bien sûr, qui a été très, très, très tendue. Et j'insiste toujours sur, peut-être qu'en France un peu moins, mais en Espagne on parle de DTA, c'est un sujet très très sensible, repris et utilisé par la politique là, notamment par la droite espagnole. Donc on parle de DTA et on visualise presque des monstres, alors qu'à l'époque, je ne veux pas minimiser leur histoire, mais à l'époque c'était des, voilà, comme on disait dans les archives du Parti communiste, des niñatos, donc des gamins, des enfants de riches un peu, et qui étudiaient avec les jésuites et qui ont décidé, voilà, qu'ils n'aimaient pas Franco et qu'ils voulaient parler en basque et qu'ils voulaient que le pays basque ressemble un peu plus à l'Europe. L'idée qu'ils avaient de l'Europe était un peu floue aussi, mais voilà. Donc, ils ont essayé justement d'utiliser les réseaux du Parti communiste et notamment des commissions ouvrières dans les usines dans le Pays basque pour intervenir, en gros, pour entrer dans les usines, distribuer leur propagande, etc. Et ça a été très mal pris parce que déjà, ils ne travaillaient pas dans les usines, ils ne travaillaient nulle part, et leurs parents non plus, ils n'étaient pas dans les usines, donc c'était un peu mal pris. Voilà, ils ont un peu, voilà, ils ont dû reculer parce qu'ils n'étaient pas, voilà, on ne leur laissait pas faire leur truc, on va dire, on ne laissait pas distribuer leur propagande, etc. Donc mon travail dans ces archives était très, très intéressant. J'ai trouvé surtout, je travaillais sur des lettres, la partie la plus importante, puisque les communiqués publics, dans la mesure du possible, et ça peut être public en partie clandestin, mais les lettres personnelles entre les militants du PC, qui étaient, voilà, qui avaient des postes quand même importants dans l'organisation, dans la structure de l'organisation, sont énormes, sont très, très intéressantes, parce que c'est là qu'on se lâche, c'est là qu'on dit ce qu'on pense. Et voilà, c'est là que j'ai trouvé des citations ou leur traité de gamins de riches qui voilà. Voilà, qui n'avaient rien à faire là-bas, qui n'avaient qu'à partir hein, des usines. Donc là, mon travail était très intéressant. Et puis, dans les archives de police, ça a été plutôt ici en France, à Pierrefitte-sur-Seine, et dans les archives nationales. Et là, c'est un peu plus délicat dans le sens où j'ai trouvé ce que j'ai pu trouver. Parce qu'il y a plein de documents qu'on m'a donnés, voilà, qu'on a, on va dire, mutilés, on a enlevé des dossiers entiers qui était important, et bien sûr, on peut pas le, sont sensibles, on ne peut pas le consulter pour l'instant. J'ai reçu des statistiques, des choses qui sont un peu moins importantes. Mais par contre, j'ai trouvé des trésors, comme par exemple la note manuscrite dont j'ai parlé avant, où ça dit clairement que les militants d'ETA qui avaient tué Carrero Blanco, bien sûr, tout ça, il faut le prouver devant un tribunal juste, etc. Mais voilà, on savait en gros que c'était eux. Et ils ont pu circuler en France avec une liberté presque totale sous les yeux de l'administration française qui en était au courant et qui a souhaité leur laisser faire sans que cela ne se sache pas. Ça, c'est une autre manuscrite vraiment intéressante que j'ai pu trouver.
Moi, j'aurais une question, c'était plus sur la langue. Je me demandais à quel point le...
This meeting is being recorded.
Voilà, c'était...
This meeting is being recorded.
Donc, parce que j'ai pu trouver, c'est pas l'aspect que j'ai travaillé le plus. Pour eux, c'était bien sûr important la langue basque, mais je dois dire que je parle une dizaine de mots une dizaine de mots en basque, je comprends. Et je fais une thèse sans aucun problème sur cette organisation. Bien sûr, si je parle le basque, j'aurais pu avoir accès à d'autres documents, mais hormis quelques, comme on dit, quelques flyers, on va dire, quelques pamphlets, qui est en bilingue. Normalement, c'est recto basque verso espagnol. Et donc, ils revendiquent l'emploi du basque, mais ils ne le parlent pas tous. Et c'est encore considéré comme une langue villageoise, je pense. Alors, ça, il faut, je parle un peu plus depuis mon ignorance ou depuis un peu une connaissance du terrain, pas en tant que chercheuse, mais en tant que, voilà, piéton, on va dire. Et ils revendiquaient la langue sans pour autant la parler. Et aussi, ce que j'ai pu travailler, c'est plus, comme je disais avant, les archives de police. Et là, c'était là, ils revendiquaient auprès des autorités françaises le fait d'être en Espagne deux professeurs de langue basque qui avaient été réprimés juste à cause de ça. Si c'est vrai ou pas, on ne le sait pas trop, mais on sait que souvent c'était des militants qui étaient allés au-delà du simple fait de défendre leur cause. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, je n'ai pas trop travaillé là-dessus. Bien sûr, dans le texte, c'est présent, mais comme l'ETA a eu tellement de rebondissements idéologiques, je vais vous dire, c'est pas la partie, à mon avis, ce n'est pas la partie la plus importante. C'est plus. Au début, comme je disais, en libéralisme européen, on ne peut pas trop définir, mais qui défendent absolument la propriété privée. Ça, c'est leur début, c'est marqué noir sur blanc. Ça évolue vers le marxisme, léninisme, internationalisme, mouvement des années 70, mouvement de libération nationale, etc. Mais la langue, si elle était centrale pour les ethnolinguistes, je dois vous dire qu'elle est. Elle n'était pas reprise, elle n'était pas utilisée comme elle l'est aujourd'hui ou comme les Catalans est utilisée aujourd'hui dans la langue courante. Donc voilà.
D'accord, merci.
Merci beaucoup. Enfin, j'ai une question, mais c'est plutôt une curiosité personnelle et je ne sais pas si ça a rentré dans. Enfin, si tu as fait des recherches aussi là-dessus, mais tu as évoqué à un moment d'autres organisations nationalistes et aussi la peur qu'il y ait des liens qui s'établissent avec, par exemple, tu disais, je sais pas, le mouvement breton ou Corse. Alors, justement, bah, je voulais te demander enfin, quelle était la réalité de ces possibles liens qu'il y avait avec ces autres organisations ou alors même au sein de l'Espagne.
Oui, là, à mon avis, la réalité, c'était que la police française n'était pas très perdue quand elle cherchait leurs liens, parce que au niveau idéologique, c'est clair, il y en avait. Et au niveau logistique, j'ai pas trop travaillé là-dessus, c'est plus une affaire de police. Et c'est bien sûr, les archives ne sont pas encore accessibles. Mais ils n'avaient pas tort quand ils voyaient voilà, bien sûr, des réunions, et ils avaient à peu près les mêmes buts. Et la France a toujours cherché, d'ailleurs, elle cherche toujours aujourd'hui à étouffer ce genre de mouvance. C'est un pays très, très centraliste. Et ils n'avaient pas tort à essayer d'éviter que ça fasse tache d'huile et que ça se répande. Et au niveau idéologique, on va dire, au niveau de l'opinion publique, et au niveau logistique et purement matériel, économique aussi, qu'ils partagent des réseaux de financement. Donc, oui, c'était en France, c'était l'été, à mon avis, était un peu considéré comme un problème mineur, un problème espagnol, ou un problème que la France n'a jamais repris en main avant le GAL, terrorisme. La guerre sale, comme on dit le basque. Mais elle prenait très, très au sérieux la menace autonomiste en France. Là, les archives sont très parlantes. Tout ce que j'ai pu consulter, qui n'est pas tout ce qui existe, c'est très parlant. Voilà.
Merci pour ta réponse, Sarah.
Par rapport à ce sujet de l'exposition médiatique, tu disais que le théâtre avait. Voilà, il y avait une relation particulière par rapport à la télé espagnole, et qui se servait voilà, de la médiatisation en fait à des fins politiques, et donc avec cette revendication en fait des attentats, voilà. Et je trouve que c'est complètement différent de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au Cône Sud, voilà. Donc est-ce que c'est lié au fait que ce soit une organisation terroriste
Ah oui, c'est très probablement, oui, parce que, en fait, ils cherchent le terrorisme, cherchent ça. À chaque fois qu'il y a, par exemple, je peux citer comme exemple les attentats de 11 mars 2004 à Madrid, dans le train, où il y a plusieurs trains qui ont explosé parce qu'il y avait des bombes dedans. Et là, le leader d'État, il est connu comme leader d'État, qui n'était pas en prison parce qu'on a jamais démontré qu'il avait des crimes quelconques, mais une personne très proche à l'organisation a dit: c'est pas l'ETA, ce n'est pas l'ETA, c'est pas les moyens de l'ETA, c'est pas les matériaux de l'ETA, c'est pas l'ETA. Il a dit le jour même, alors que le gouvernement du Parti populaire à l'époque insistait sur le fait que ça avait été l'ETA, parce que voulait cacher que en fait c'était pas l'ETA, c'était un attentat islamiste d'Al-Qaïda pour protester contre l'intervention de l'Espagne dans la guerre d'Irak. Donc, en fait, enfin, l'organisation, le terrorisme cherche ça, les attaques, je sais pas comment on dit ça en français, des fausses drapeaux, les attaques de falsa bandera, comme on peut trouver là dans la guerre de l'Ukraine, ben, c'est plus les États qui le font. Le terrorisme cherche à se faire visible. L'État intervient à chaque campagne électorale, pardon, en Espagne. On retenait le souffle parce qu'on savait que l'État pouvait intervenir. En fait, elle a intervenu plusieurs fois. On a dû interrompre les campagnes électorales plusieurs fois. Et en fait, on le revendique. L'attentat contre Carrero Blanco, il a été revendiqué, bien sûr, tout de suite, et qu'ils ont eu un moment dès qu'ils ont pu quitter l'Espagne. Ils ont revendiqué l'attentat. Donc, oui, j'imagine que c'est à cause de voilà, c'est la collègue qui devrait le dire, mais je pense que le fait d'être terrorisme d'État et terrorisme pur et dur, on va dire, c'est important. Par exemple, en Espagne, on a eu le terrorisme d'État, le GAL, le groupe militaire, le groupe mercenaire qui a porté atteinte à la vie de plusieurs personnes, des militants de TA ou pas d'ailleurs, parce qu'ils se sont trompés plusieurs fois, ils ont tué des personnes qu'il ne fallait pas tuer, et eux, ils ne le revendiquaient jamais. On savait que ça existait, et ils essayaient de faire peur aux militants de TA, mais ils n'essayaient pas de montrer ça à l'opinion publique, parce que ce n'était pas bien vu de montrer que l'État des droits n'a pas les moyens de lutter contre ces personnes, parce que la France ne collaborait pas, ou parce que l'Espagne, le policier n'était pas doté des moyens. Donc voilà, je pense que ça a voir.
Je n'ai rien d'autre à ajouter, ce n'est de vous dire merci et bonne continuation.